Arnaque Campagne, bonjour. Nous poursuivons notre route dans le département des Deux-Sèvres. Ce département vit actuellement, comme d'autres, un grand dilemme entre réchauffement climatique et grande agriculture autour d'une question vitale, essentielle, la gestion de l'eau. Il est de coutume dans ce département que des réserves d'eau artificielle, dites bassines, soient créées afin d'assurer l'irrigation des zones agricoles. Or, plusieurs associations comme Deux-Sèvres Environnement, le groupe ornithologique du département ou encore la coordination de défense du marais Poitevin s'élèvent contre des prélèvements qui sont estimés chaque année à 25 millions de mètres cubes pour l'usage agricole. Les groupements associatifs souhaitent rabaisser ces prélèvements à 12 millions de mètres cubes selon un article publié par nos confrères de la Nouvelle République. Face à cette très nette crise de l'usage de l'eau et des réductions des réserves naturelles, une autre association, l'API, poursuit son travail de protection et d'animation. Sa présidente, Joëlle Lallemand, est notre première invitée. Et puis nos amis du magazine Village viennent d'éditer le numéro d'automne du magazine qui comporte plusieurs dossiers, dont un essentiel, la pénurie de médecins généralistes en milieu rural. Présentation du dossier tout à l'heure avec Sylvie Le Calvez, directrice de publication du magazine.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Joëlle Lallemand, bonjour.
Bonjour.
Joëlle, docteur en biologie et présidente de l'API, association de protection et d'information de l'étude de l'eau et de son environnement. Apparemment, la gestion de l'eau est problématique en Deux-Sèvres.
Oui, elle est problématique depuis un certain temps. Nous, l'association a été créée dans les années 90, enfin en 90, suite au constat alarmant qu'on avait remarqué sur nos rivières. En 89 et 90, par exemple, on a eu 600 km de sec sur 2000 km de rivières permanentes. Mmh. Donc ça faisait beaucoup. Ça a motivé la création de cette association, mais d'autres associations aussi dans le département.
Alors comment on explique cette baisse du débit et cet état de fait des rivières asséchées ?
Eh bien, dans les années 70, dans le département, on n'avait que quelques dizaines d'hectares irrigués. Et puis l'année 76 est passée par là et elle a laissé des gros traumatismes. Et du coup, on est parti dans l'irrigation à tout va, sans régulation au départ, jusqu'à arriver vers la fin des années 80 à 25 000 hectares.
Donc Joëlle voulait nous dire que c'est principalement de sources agricoles.
Ah oui, oui, bien sûr, oui. Donc l'agriculture, dans notre département, elle consomme en été la moitié de l'eau totale, autant que ce que consomment les 360 000 habitants.
Ouais. Alors il y a plusieurs problématiques dans la gestion de l'eau. Il y a aussi notre propre consommation en eau. On a dit, je ne sais pas si les chiffres sont bons, en moyenne, aux États-Unis, un citoyen américain consomme 500 litres d'eau. Si on considère la cuisine, la toilette du matin ou du soir, en moyenne par jour, on dit 250 en France et en Europe, et 5 litres d'eau en Afrique.
Oui. Donc c'est sûr qu'on n'a pas heureusement les consommations des Américains, sinon on s'en sortirait pas.
Oui.
On peut encore faire des économies, bien sûr.
Et troisième problématique, celle de la continuité écologique, on en a déjà parlé. Est-ce que ça ne favorise pas aussi un assèchement des cours d'eau ?
Vous voulez dire les barrages,
oui.
Des choses comme ça ?
Oui.
Oui, oui, bien sûr, ça peut le favoriser. Ce qui s'est passé aussi, c'est que les ruisseaux et les rivières ont été, entre guillemets, rectifiés. À une époque, c'est-à-dire qu'on les transformait pratiquement en fossés. Donc de l'eau qui mettait 2 semaines à arriver à la mer, et ben tout d'un coup, elle s'est mise à y arriver en quelques heures. Donc avec beaucoup moins de possibilités d'infiltration. Et bien entendu, pour le milieu, c'est pas du tout bon.
Mmh.
Et en plus, tous les arbres, toute la ripisylve qui était au bord de la rivière, à plusieurs endroits, elle a été arrachée. Donc enlevant l'ombre sur l'eau, ça a augmenté bien sûr l'évaporation.
Oui. Alors quatrième source de problème, c'est l'artificialisation des sols avec l'urbanisation.
Alors là, c'est plutôt un problème inverse, parce que l'artificialisation des sols fait que quand il y a trop d'eau, elle ruisselle très vite vers les rivières qui débordent. Et donc c'est aggravé par le fait que ces rivières qui étaient avant sinueuses, qui avaient des zones humides sur les bords qui pouvaient tamponner un petit peu cet excès d'eau, eh bien ça n'existe plus ou beaucoup moins.
Alors, question subsidiaire, Joëlle, comment peut-on restaurer des rivières ?
Ah, alors on a fait une restauration il n'y a pas très longtemps. Il y a plusieurs façons de faire. On peut essayer de les reméandrer, de faire des plantations autour, de mettre des rochers, des rivières qui sont toutes droites avec aucun abri à l'intérieur. Elles ne sont pas hospitalières pour les poissons, ni pour les insectes. Donc on peut rajouter des rochers, des petits couverts de gravillons, pour faire des frayères pour les truites, etc. C'est possible.
Oui. Alors vous venez d'organiser votre fête du bio il y a quelques jours sur le thème, si je me trompe pas, mais je me réfère au courrier de Livio, le thème était la place de la femme dans le monde agricole. C'est la femme qui peut changer le cours des choses, sans parler uniquement du cours d'eau.
Je ne sais pas du tout si la femme fera mieux que l'homme. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que il faut qu'on bouge en agriculture. Pendant très longtemps, elle a été considérée comme femme d'eux et non pas comme agricultrice à part entière. Donc ça, c'est en train de changer. Il y a des lois qui ont été passées, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Au niveau des banques, par exemple, qui n'ont pas tellement confiance dans les femmes. Ils vont lui dire, mais pourquoi vous ne faites pas des fleurs si, par exemple, elles ont envie d'être éleveurs. Des stéréotypes qui existent encore.
Vos projets ?
Ben, nos projets à l'API, actuellement, on lutte contre des projets de stockage d'eau qui seront sans doute nécessaires, mais qui, pour nous, sont très mal faits à l'heure actuelle. On fait aussi des choses actives, hein, du genre restaurer des rivières, faire des plantations de haies, parce que les haies aussi ont un rôle à jouer pour l'hydraulique. Elles retiennent l'eau, elles permettent l'infiltration vers le sol, elles l'épurent aussi. Et puis aussi un maximum de pédagogie. On va à la rencontre des gens, des enfants, des adultes aussi, avec des conférences ou des conférences gesticulées. Voilà.
L'association de protection, d'information et d'étude de l'eau et de son environnement, c'est un peu long, mais si on dit API, vous écrivez API avec 3e.org, vous avez directement l'adresse et vous pouvez la retrouver aussi sur la page Facebook à Chizé en Deux-Sèvres. Merci Joël.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand sur France Inter.
Du changement climatique encore, avec les enjeux, les urgences, les solutions à faire prévaloir. Il va en être question lors des assises de la transition écologique et citoyenne qui se dérouleront à Nice sur le campus Saint-Jean d'Angély du 29 octobre au 2 novembre prochain. Alors, je vous annonce cet événement avec beaucoup d'avance. D'abord, c'est pour vous alerter parce qu'il y a une bonne centaine de communications prévues au cours de ces 5 journées. 140 conférenciers ont répondu à l'appel de l'université. Il s'agit pas de confrontation d'idées uniquement de chercheurs, mais une mise à plat de solutions, d'alternatives qui s'offrent pour répondre aux enjeux actuels. Ces thèmes et ces enjeux seront déclinés en 10 thématiques: alimentation, culture, démocratie, économie, consommation, éducation, environnement, énergie, habitat, solidarité, transport et urbanisation. L'entrée est libre, mais il est nécessaire de s'inscrire. www.at comme assise de la transition, www.at06.eu. Et nous rejoignons en Normandie Sylvie Le Calvez. Bonjour Sylvie.
Bonjour Philippe.
Ravi de faire la rentrée d'automne du magazine Village avec vous depuis les studios de France Bleu Caen, en Normandie, chez vous, pour un premier dossier alors qui est capital puisqu'il revient régulièrement dans les problématiques des carnets de campagne et aussi du magazine Village. C'est la recherche de médecins, parce qu'on en cherche de plus en plus en milieu rural.
Oui, tout à fait. La situation est quand même préoccupante. Et ce qu'on a voulu à travers ce dossier, c'est non seulement dresser le constat, mais aussi essayer de lister toutes les solutions, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, même si c'est difficile, pour faire en sorte d'être moins en sous-démographie médicale, parce que pour l'instant, effectivement, le constat est assez alarmant. Hein. Moins 9% de généralistes en 10 ans, moins 15% au milieu rural, une baisse des généralistes partout au profit des spécialistes, et puis 9000 communes, soit à peu près 10% de la population, qui sont effectivement concernées par le manque de médecins, et notamment le manque de médecins généralistes.
Et comment expliquer ça alors que vous l'écrivez vous-même? On n'a jamais eu autant de praticiens inscrits à l'ordre des médecins, à savoir actuellement 226 000.
Parce qu'effectivement, les médecins préfèrent, parce qu'ils ont fait leur stage en milieu hospitalier, se retrouver en hôpital, et plutôt dans les agglomérations, et plutôt dans le sud de la France. Donc c'est pas du tout, ou dans les pourtours du littoral, que ce soit celui de l'Atlantique ou celui de la Méditerranée. Et c'est, effectivement, c'est pas du tout équitable quand on voit le nombre de médecins dans certains départements. Alors la Nièvre, l'Orne, l'Indre sont des départements très très sinistrés. D'ailleurs, à propos de l'Indre, il y a même la maternité de Leblanc, où sa bataille dure pour éviter de la fermer. Oui. Il y aura même une manifestation le 15 septembre.
Oui, exact, dans quelques jours. Vous faites bien de le rappeler. On soutient évidemment ces batailles. Alors, il y a aussi des solutions, mais d'abord, on va donner quelques chiffres en complément de ceux que vous avez apportés déjà, Sylvie. C'est qu'il y a de plus en plus de femmes à pratiquer la médecine.
Oui, ça veut dire aussi qu'il faut trouver du travail pour le conjoint. Quand on est en milieu rural, ce n'est pas forcément évident. Et plus personne, femme ou pas, ne veut faire non plus des heures et des heures. Donc se retrouver comme médecin isolé dans la campagne à faire 70 heures semaine, ça, de l'avis à peu près unanime de tous les médecins qu'on a rencontrés, ce n'est plus possible et on les comprend. Donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres solutions, d'autres façons de travailler. Alors ça peut être bien sûr, si on commence à aborder un peu les solutions, les maisons médicales, avec une mutualisation de moyens moyens matériels et humains, ça c'est une piste. La possibilité aussi de faire appel à la médecine à distance, hein, avec des initiatives très intéressantes, je trouve. Par exemple, les dermatoscopes qui sont implantés maintenant dans les pharmacies. Je pense à Saint-Bonnet-le-Joux en Saône-et-Loire, où on peut envoyer à distance un spécialiste et sous 24 heures, vous avez la réponse. Ça évite à des personnes d'aller prendre 3 mois pour aller chez le spécialiste, ou de toute façon, parfois c'est même trop tard, hein, malheureusement. Et puis, ça évite des déplacements. Donc, il y a des choses quand même sur la médecine à distance qui peuvent être intéressantes et qui ne sont pas du tout anecdotiques, surtout dans certains secteurs.
Vous prenez l'exemple de Saint-Bonnet-le-Joux, donc en Saône-et-Loire, 800 habitants, qui a un pôle santé avec une maison médicale, une unité de vie pour personnes âgées dépendantes et bientôt un centre pour handicapés physiques, décidément. 800 habitants, mais comment on peut réaliser un tel pôle de santé avec si peu d'habitants ?
Ça a été bien pensé en amont et c'est une vraie politique aussi du département. Le conseil départemental de Saône-et-Loire est particulièrement actif dans le domaine de la santé. Il en a fait sa priorité, avec aussi, pour la première fois, dans ce département, des médecins salariés. Et alors, ça fait un peu de bruit, hein. C'est pas facile à faire accepter alors des médecins, etc. Il n'empêche que ça marche, hein. Ils rémunèrent leurs médecins à 6 000 euros par mois, ce qui n'est pas rien. Mais néanmoins, ils les fidélisent et les médecins sont contents d'être salariés dans ce département qui était en grande souffrance aussi en matière de démographie médicale.
Oui, oui. La télémédecine, vous donniez un exemple avec le dermatoscope, hein, c'est ça que vous avez dit ?
Oui, tout à fait.
On a l'exemple, je crois qu'on l'avait d'ailleurs cité il y a quelque temps, c'est un camion d'auscultation qui circule dans les communes des Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne.
Oui, c'est Tim, le camion de télémédecine médicale mobile. J'aime bien l'appeler Tim.
Alors, c'est un peu intime, hein, d'ailleurs.
On en avait effectivement déjà parlé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives de camions comme ça, de téléimagerie. Et pour cause, c'est cher financièrement. Et tant que les remboursements, sécurité sociale ne prennent pas en compte le fonctionnement d'outils comme ça, même si c'est intéressant d'expérimenter, c'est dur de généraliser. Donc tout le monde regarde un peu ça de près pour voir comment ça fonctionne. Et c'est vrai que pour l'instant, on en voit peu.
1% des médecins installés en 2016 en France provenaient d'autres pays, et en particulier de Roumanie.
Oui, ça veut dire qu'on vide d'autres pays de leur démographie médicale aussi, hein, donc c'est pas forcément la panacée. Par exemple, sur l'année 2016, 90% des nouveaux médecins installés dans l'Indre sont d'origine étrangère. Donc ça devient énorme, 78% dans la Nièvre, 60% dans l'Orne. Donc c'est pas anecdotique, il y a des réussites, il y a des échecs aussi, mais c'est une solution néanmoins quand vraiment on n'a plus du tout de médecins et certains départements ont trouvé quand même cette solution.
Merci pour toutes les pistes que l'on retrouve dans ce dossier SOS Village cherche médecin dans le numéro d'automne du magazine Village. Le site c'est villagemagazine.fr tout simplement. Merci Sylvie.
Merci Philippe, à bientôt.